Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC. Moi, je cherche dans l'archéologie histoire de l'art, donc le pôle emploi n'est pas très adapté.
Il n'y a rien qui bouge, quoi. On nous ment et sans boulot, on fait rien, donc c'est dur un peu.
Ce dont j'ai peur, c'est de m'écarter de mon projet professionnel en faisant des petits boulots à droite à gauche.
15h-16h.
Coralie décroche le Graal.
J'ai mon CDI, j'ai mon travail.
Ça fait du bien.
C'est la sécurité de l'emploi, c'est le salaire aussi qui tombe tous les mois.
Mes copains, ils ont tous mon âge, ils sont tous au chômage, tous.
100% bachelor.
Les excuses qu'on me donne pour les refus sont liées à mon manque d'expérience.
Je pense que être jeune est un handicap.
Ouais, on est au bas de l'échelle, quoi.
Faut essayer de trouver des tout petits contrats à la semaine. C'est vrai que 18-25 ans en France, c'est un peu marche ou crève, quoi.
Personne nous fait confiance.
T'arrives, t'as jamais travaillé, et ils te disent qu'il faut avoir de l'expérience et tout, sauf que si tous les employeurs te répondent la même chose, tu n'auras jamais ton expérience.
Roselyne Bachelot.
Bonjour, c'est Roselyne Bachelot, il est 15h06 sur RMC, c'est l'heure de 100% Bachelot, et c'est l'heure de retrouver Rémi, mon petit Rémi chéri.
Rebonjour Roselyne, bonjour à tous.
Qui est avec moi en contrat à durée indéterminée, tout le temps qu'il le souhaitera.
À l'infini. Oui,
à l'infini, voilà, c'est une histoire de longue durée entre Rémi et moi. Alors, on va parler du contrat à durée indéterminée. Curieusement, bon chiffre, le nombre des embauches en CDI a augmenté de 10% au dernier trimestre 2016. Pourtant, on nous disait que le contrat à durée indéterminée était destiné à disparaître. Bon, il faut resituer ça dans son contexte. On nous parle d'ubérisation du monde du travail, de précarité de l'emploi, de flexibilité. Alors, il faut rappeler les chiffres, hein. 88% des un peu plus de 28 millions de salariés français sont en contrat à durée indéterminée. Mais 87% des embauches se font, eux, en contrat à durée déterminée. C'est-à-dire qu'il y a 10% des plus de 25 ans qui sont en contrat à durée indéterminée, mais 30% des moins de 25 ans. De moins en moins de contrats à durée déterminée se transforment en CDI, parce qu'on disait, ouais, le contrat à durée déterminée, c'est le début, puis ensuite, on passe en CDI. C'était vrai il y a 25 ans. 1 sur 2. Maintenant, c'est plus que 1 sur 5. Et pour des durées de plus en plus courtes. Donc, le CDI ne va pas disparaître, au moins à court terme, mais certainement, il va diminuer, se transformer. Je suis, pour ma part, pour un contrat unique, plus protecteur pour les CDD et plus flexible pour les CDI. Alors, la mort du CDI, votre constat, comment s'adapter à ces transformations inéluctables? On vous attend au 3216, sur Twitter, bachelot_RMC, par mail, vous m'écrivez sur rmc.fr.
RMC, Top News, 100% Bachelot.
Le top news, les autres sujets qui te font réagir aujourd'hui, Roselyne, la centrale nucléaire de Fessenheim peut fermer, va fermer, fermeture promise par François Hollande et approuvée ce matin par le conseil d'administration d'EDF.
Et oui, on est toujours rattrapé par ses fautes parce que Hollande a fait une promesse, il a changé, il est revenu. Il a fait ça pour gagner les voix écologistes dans sa campagne. La décision est prise sous une pression maximum, puisqu'au CA, il y a eu 6 voix pour, 6 voix contre, et c'est la voix du président du DF à qui le gouvernement a tordu le bras, contre les salariés, et surtout, Rémi, colossale finesse, sans prendre le décret d'arrêt d'exploitation. Donc, la centrale, elle continue, quoi.
Et puis, c'est aux autres de faire ce qu'ils peuvent avec. François Hollande ne votera pas pour la primaire de la gauche. Il ne l'a pas fait au premier tour. Il ne le fera pas plus pour le second dimanche. C'est ce qu'indique son entourage.
Il a raison. Il a raison, Hollande, de pas voter aux deux tours. Mais là où il a tort, c'est pas de le dire de façon claire. Je ne vote pas parce que je suis président de la République. Mais il laisse à croire, en allant par exemple au théâtre, pendant le débat de la primaire, qu'en fait, non seulement il s'en moque, mais il est en train de fomenter un mauvais coup. C'est du Hollande, là encore. Il a qu'à le dire clairement, avec un peu de majesté, au lieu d'avoir l'air de ronchonner dans son coin.
Et puis le gouvernement voudrait agrandir le logo d'avertissement des femmes enceintes qui figure sur les bouteilles de vin.
Ah bah alors, là j'ai pas été sympa avec le gouvernement et avec Hollande, mais là je dis félicitations. Il y a un chiffre, hein. Les viticulteurs du Bordelais ont dit on prend les femmes pour des imbéciles en mettant un logo. Mais non, on voit bien que l'information n'a pas encore percolé, si j'ose dire. 52% des Françaises ont bu de l'alcool pendant leur grossesse. Et le SAF, ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, hélas, ça existe avec des conséquences extrêmement graves sur le fœtus.
D'accord, pas d'accord, vous nous appelez au 3216, c'est le même numéro pour engueuler Roselyne. Et puis, je le rappelle, Roselyne, il y a encore des Citroën C1 à gagner. Nous les avons cachés partout en France. C'est à vous de les retrouver. Vous choisissez un département. Et puis, surtout, vous nous envoyez RMC par SMS au 7-30-16. Vous choisirez un département et on verra si la Citroën...
Et je vais vous dire les gagnants ou les perdants. Hein. Je vais vous dire ça à la fin du show.
Exactement.
RMC 100% Bachelot. Retrouvez Roselyne Bachelot sur Facebook et Twitter.
Alors que les derniers chiffres du chômage sont dévoilés ce soir, le CDI reste le Graal des jeunes. Selon un sondage Opinionway publié ce matin, les 18-29 ans sont 73% à définir le contrat à durée indéterminée comme un objectif majeur dans leur vie. Mais ils sont encore plus nombreux, 81%, à estimer qu'un emploi en CDI est difficile à obtenir. Pour cause, en 40 ans, la situation de ces jeunes sur le marché du travail s'est fortement dégradée en France. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que démontre un rapport remis aujourd'hui même à la ministre Myriam El Khomri. Leur taux de chômage à ces jeunes est dans une fourchette haute, 24% en 2016, alors que le taux d'activité est plus faible que la moyenne européenne. Les jeunes français confrontés au surchômage au moment de leur entrée sur le marché du travail, et attention, c'est toujours ce que dit ce rapport, des difficultés, Roselyne, ce surchômage qui persiste plus d'une dizaine d'années après leur entrée sur le marché du travail.
Eh oui, c'est un véritable problème dans notre pays que ce chômage des jeunes, que cette précarité de l'emploi qui gagne du terrain, c'est aussi le fait que le monde du travail est en pleine mutation et qu'il s'agit de s'adapter à ces mutations du monde du travail. Nous avons avec nous Patrick Lévy-Wetz pour en discuter, en débattre, président de ITG, travailler autrement. Vous nous appelez bien sûr au 3216, sur Twitter, sur Facebook. Mais avant même de vous passer la parole, Patrick Lévy-Wetz, j'ai avec moi Jacqueline Balzan, présidente du Mouvement National des Chômeurs et des Précaires. Bonjour Jacqueline Balzan.
Bonjour madame.
Comment allez-vous ?
Fort bien.
Bon, je vous souhaite tous mes voeux pour la nouvelle année.
Et moi également les miens, et du travail pour tous.
Et du travail
bon
pour
travail
tous.
Et vraiment, parce que j'entends les jeunes, et oui, les jeunes sont pénalisés par le chômage, c'est clair.
Alors, faites-nous décrivez-nous de façon un petit peu plus appuyée comment ça se passe. Et puis dites-nous si vous pensez que cette évolution des contrats de travail est inéluctable.
Eh ben, écoutez, moi, ce qui m'interroge, c'est que il existe quand même, de quel CDI on parle pour les jeunes? Parce qu'il existe quand même des CDI à temps partiel, des CDI à temps variable, et il existe 24 contrats différents du CDI au CDD. Alors, on va parler des politiques de dérégularisation, du droit qui a engendré une précarité généralisée, comme vous le disiez, c'est une mutation. C'est une mutation, mais ça a quand même dégradé les véritables conditions de travail. Parce que les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est un emploi, un CDI, ils en rêvent. Pourquoi ils veulent un CDI? Ben, tout simplement, déjà, pour lutter contre l'image qu'ils sont considérés comme des égoïstes, des paresseux, des intolérants, ce qui semble pas vrai, parce que le travail est quand même au centre de leurs préoccupations. C'est ne pas rester chez soi, c'est
oui, parce que quand on n'a pas assez
de l'argent pour construire une vie.
Jacqueline Balzan, quand on n'a pas de CDI, par exemple, c'est très difficile d'avoir un logement et d'avoir un contrat de location.
C'est très difficile d'avoir un logement. C'est aussi très difficile après le contrat. Quand les jeunes ont la possibilité d'avoir un contrat de plus de 6 mois qui ouvre des droits au chômage, hein, 4 mois qui ouvre des droits au chômage, c'est très difficile après d'avoir des revenus inférieurs et de dire je veux un logement, j'ai eu un travail, j'en ai pas actuellement, mais il me faut un logement. Parce qu'il faudra à un moment donné que les politiques du logement logement, elles agissent face à cette précarité grandissante pour que les jeunes puissent avoir un logement. Parce que je suis sur Montpellier et tous ces jeunes qui sont à la rue, qui viennent à la maison des chômeurs, leur premier truc quand ils viennent, c'est de se mettre devant un ordinateur, et c'est pas plus à Montpellier qu'ailleurs, c'est de se mettre devant l'ordinateur, je cherche un boulot et je cherche un logement. Sans logement, il n'est pas question d'avoir un travail. Et sans travail, il n'est pas question d'avoir un logement.
Jacqueline Balzan.
Encore une fois, le serpent qui se mord la queue. Quoi.
Jacqueline Balzan, vous restez avec nous. Rémi,
vous... Oui, je voudrais juste vous poser une question, Jacqueline Balzan, et vous parlez du CDI, de sécurité, de stabilité pour les jeunes, mais est-ce que c'est la seule solution pour le retour ou pour l'accès à l'emploi, ce CDI? Roselyne tout à l'heure parlait du contrat unique, de sa faveur pour le contrat unique. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on reste arc-bouté sur le CDI?
Ben, c'est le CDI qui permet les perspectives. On peut parler des contrats emploi jeunes qui ont été pendant 5 ans et qui ont été une bonne mesure. Moi, je connais des jeunes qui ont été en emploi jeune et qui sont toujours en CDI, qui sont en CDI maintenant dans l'entreprise. Je pense aussi également à des véritables formations et puis à une politique des employeurs quand même. Il y a combien de jeunes, un peu plus d'un jeune sur trois et sur qualifié pour son emploi. C'est-à-dire que les jeunes vont prendre un emploi inférieur à leur qualification. Et ça aussi, c'est à l'employeur à être responsable et à se dire, je veux une personne avec un CAP ou un BEP, je ne vais pas prendre un bac plus 2 ou un bac plus 3.
Alors, on va tout de suite poser la question à un chef d'entreprise parce que voilà, et lui il embauche des jeunes sur le terrain. Jean-Paul, bonjour. Jean-Paul, c'est Jean-Paul, merci.
Et il nous appelle des Yvelines au
32. Des Yvelines. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Roselyne, bonjour à tout le monde. Je voulais donc témoigner sur le fait de l'embauche des jeunes. Alors nous, les jeunes, on les considère jusqu'à l'âge de 30 ans. Hein. On en a trois qui ont actuellement entre 25 et 28 ans. Ils sont tous en CDI, mais ils sont forcément passés par une période chez nous en CDD, ne serait-ce que pour voir ce qu'ils pouvaient apporter à l'entreprise et leur volonté d'y rester. Ça, c'est une première chose.
C'est une sorte de période d'essai qui s'éternise. D'accord.
Vous savez, par les temps qui courent, quoi qu'on en dise, même si le travail se fait rare, quand on tombe sur des gens qui ont une vraie philosophie d'entreprise, on les laisse pas partir. Donc, deux périodes de CDD suffisent largement à voir à quel jeune on a affaire. Et voilà, et quand on a les bons, on les garde. Maintenant, la personne auparavant parlait d'une chose très importante, elle parlait de surqualification par rapport au poste. Elle parlait de CAP-BEP, il y en a de moins en moins. Dans les métiers manuels, on voit bien. Et il ne faut pas confondre qualification et certification, c'est-à-dire que les jeunes...
Oui, et adaptation au poste.
Voilà, mais les jeunes viennent avec des diplômes, effectivement, BTS, Bac Pro, dont on n'a vraiment pas besoin. On a besoin d'avoir des CAP. Et ces surdiplômés, en fait, ne correspondent pas du tout au profil que nous, chefs d'entreprise, avons besoin. Donc ça aussi, c'est un gros problème.
Alors,
les jeunes qui viennent et qui n'ont pas les niveaux souhaités pour les entrepreneurs. Ça,
Jean-Paul, je veux faire réagir notre invité Patrick Lévy-Wetz sur ce qui a été dit à la fois par Jacqueline Balzan et Jean-Paul, qui sont assez antagonistes. Voilà, pourquoi est-ce qu'on n'embauche pas les jeunes en CDI?
Les deux sont engagés. Que ce soit Jean-Paul ou Jacqueline, ils sont antagonistes, mais en fait, ils donnent les deux. En fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Premièrement, un chef d'entreprise s'emploie quand ça a besoin de ressources et quand il est capable d'avoir la bonne ressource. Je reviendrai tout à l'heure sur les questions d'apprentissage, mais la problématique de la qualification est réelle dans notre pays. Énormément de postes ne sont pas pourvus aujourd'hui parce qu'on n'a pas des jeunes qui ont été formés à ce dont a besoin l'entreprise. Autrement dit, le fait que l'éducation nationale d'un côté et l'entreprise de l'autre, le monde économique, ne se parlent que très peu et un petit peu à l'université depuis quelques années.
Et que même l'éducation nationale se méfie des chefs d'entreprise. J'ai pu le vérifier en participant des conseils d'administration, des conseils d'établissement.
Absolument. Donc la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on fait s'interpénétrer deux mondes, celui de l'éducation et de la qualification et celui de l'entreprise. Premier élément. Deuxième élément, sur la question des contrats. Le cœur du sujet du CDI ou du CDD. Moi, je partage votre point de vue sur un CDD unique, CDI, pardon, unique, le lapsus, c'est intéressant, mais CDI unique. Mais regardons d'abord les chiffres. Un CDI aujourd'hui, contrat soi-disant à durée indéterminée, il est de 10 ans en moyenne. Oui. Donc ça n'existe plus.
Ça n'existe
la
plus.
La réalité n'existe plus. Le CDI qui dure longtemps, très longtemps, voire toute la vie, ça n'existe plus.
Sauf dans la fonction moyenne, publique.
Sauf dans la fonction publique. La CDI n'existe plus. Premier élément. Deuxième élément, ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait singulier. C'est que d'un côté, les entreprises ont besoin, à l'évidence, de souplesse parce que les cycles économiques sont de plus en plus volatiles, de plus en plus rapides, de plus en plus volatiles. Il faut savoir qu'une entreprise, les entreprises, la vie d'une entreprise, en moyenne, c'était 75 ans. Il y a encore 30 ans. C'est 15 ans aujourd'hui. Donc, si la vie d'une entreprise, c'est 15 ans, vous imaginez bien que le CDI n'a plus de sens. En soi, tel qu'il est construit aujourd'hui. Et donc, le chef d'entreprise, il fait en sorte, bien entendu, il y a ceux qui ne sont pas des entrepreneurs sociaux, mais la majorité des chefs d'entreprise veulent développer leur boîte. Donc, ils ont besoin de commandes et d'avoir la possibilité, s'il y a une difficulté, d'un peu de souplesse. En revanche, de l'autre côté, les jeunes qui n'ont pas de contrat de travail ou qui veulent un CDI, c'est pour une raison, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que sans CDI dans ce pays, il n'est pas possible ni d'avoir un prêt, ni de se loger. Alors si vous voulez que les jeunes...
Faut changer ça.
Si on ne change pas à la source cette question-là, et si on ne traite pas cette question à la source, vous n'aurez pas de mutation dans les esprits.
Alors, Jacqueline, qu'est-ce que ça suscite chez vous, ce que vient de dire Patrick Lévy-Wetz? Vous entendez?
Oui, bien sûr que j'entends et on s'en rend compte tous les jours, mais c'est la sécurisation des parcours professionnels qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'une personne qui rentre dans la vie active, à partir du moment où elle y rentre, qu'elle puisse aller d'un CDD à une formation, au retour au chômage, rebondir sur une autre, sur un contrat précaire, etc. Mais c'est lui permettre d'avoir à tout moment les mêmes revenus, à peu près les mêmes revenus pour pouvoir dire je ne passe pas de 1100 euros par mois parce que j'ai 1100, enfin l'équivalent du SMIC, 1200 euros par mois environ pendant 4 mois à quelques, et qui ne me permettent pas d'aller
ça sent son Benoît Hamon ça
nous, non, si mais... vous voulez au regard, je ne sais pas si c'est Benoît Hamon ou un autre, mais nous je sais que nous le préconisons depuis très longtemps dans la mesure où nous voyons que les personnes qui sont de plus en plus en précarité ne peuvent jamais s'en sortir. Hein. Et on constate d'autant plus que les personnes qui ont été en emploi aidé n'ont à aucun moment une proposition d'un emploi plus à temps complet et plus long. Quoi. Le contrat d'avenir, c'est un maximum de 3 ans. Bon, tant mieux, mais il y en a combien dans le tas qui font 3 ans? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut donner les possibilités à tout un chacun, aux jeunes et aux autres, bien sûr. Hein. Mais là, on parle du chômage des jeunes qui est élevé, mais les seniors, c'est pareil. Enfin, il y en a qui perdent leur logement. Tout est dans le système où il faudrait quand même un revenu. Je ne parle pas du revenu universel, attention. Hein. Je parle de la sécurisation du parcours professionnel. Ce n'est pas du tout la même chose.
Jacqueline, merci. Vous avez ouvert un dossier important avec la sécurisation des parcours professionnels. Je remercie Jean-Paul. On va continuer avec Patrick parce que ces questions-là sont extrêmement importantes. Merci Jacqueline, merci Jean-Paul.
Merci à vous.
Merci à vous et très bonne année, très bonne semaine.
C'est vrai qu'on va essayer de trouver des solutions.
On va trouver des solutions.
On a compris, et ça reste quand même problématique, on a compris qu'il fallait davantage de flexibilité dans le travail, dans le monde du travail, et en même temps on exige une stabilité de la part des banques, de la part des propriétaires pour louer un appartement par exemple. Donc on va essayer de trouver des solutions, comment être flexible tout en assurant un minimum de stabilité, de sécurité à ces jeunes.
Et oui, on va trouver les solutions, c'est au 32-16.
On lance ce défi au 32-16.
A tout de suite sur RMC.
RMC.
Le début de la vie professionnelle, c'est quasiment un bizutage. C'est très compliqué de commencer la vie aujourd'hui. C'est très compliqué d'avoir de la visibilité sur son avenir et de pouvoir construire son projet de vie sereinement.
15h-16h.
Aujourd'hui, on est sur un marché où on a le choix. C'est-à-dire qu'il y a 3 millions de chômeurs. C'est une réalité. Donc on peut aujourd'hui se permettre d'avoir le luxe de choisir entre quelqu'un d'expérimenté et quelqu'un de moins expérimenté.
100% bachelot.
On m'a proposé une formation rémunérée de moins à 400 euros. Quoi. Donc je me suis dit, il n'y a que ça en France qui peut aider un jeune.
Le contexte économique fait qu'aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un, il nous faut quelqu'un qui soit performant rapidement.
Roselyne Bachelot.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche. en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Il est 15h28 sur RMC et véritablement on se castagne sur la question du contrat durée indéterminée. Est-ce bien la solution pour combattre le chômage? En tout cas, il y a quelque chose qui marche bien sur RMC, c'est qu'on a battu notre record historique d'audience et on rappelle qu'on vous offre pour vous remercier 10 Citroën C1, on les a cachés en France, à vous de les trouver. Et vous nous envoyez RMC par SMS au 732-16 et à la fin, dans une petite demi-heure, je vais vous révéler quels seront peut-être le ou les gagnants.
Et puis il y aura avant cela le top news, Roselyne, les sujets qui te font réagir aujourd'hui dans l'actualité, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, Hollande qui ne votera pas pour la primaire de la gauche, ni au premier ni au second tour, et puis des étiquettes plus grandes sur les bouteilles de vin pour avertir les femmes enceintes. Tu es ravie, les viticulteurs sont vent debout. D'accord, pas d'accord, vous voulez réagir, vous nous appelez évidemment au 32-16.
Et oui, au 32-16, mais vous nous appelez aussi pour savoir quel est le bon contrat de travail pour assurer l'entrée de tous sur le marché du travail. Nous avons avec nous Patrick Lévy-Waits, président de la fondation ITG Travailler Autrement. Il y a une question qui depuis le début de notre émission, notre show me turlupine, si j'ose dire. On a souvent dit que nous avions fait en France le choix du chômage avec d'un côté tout un secteur de travailleurs hyper protégés, soit dans la fonction publique, soit par des CDI, et qu'on payait par la précarité des plus jeunes ou des moins insérés, on payait cette hyper protection par le chômage et la précarité des plus jeunes. Est-ce que c'est vrai ou alors vous battez ça en brèche, hein?
C'est plus compliqué que ça, parce que quand il y a des études qui viennent de montrer qu'en France, la protection du chômage, en tout cas pour ceux qui évidemment cotisent, est pas plus élevée en moyenne, on touche 67% que dans un pays. La durée est un peu plus longue, mais d'une certaine façon, c'est pas vrai que la France est au-dessus des normes.
Donc c'est un mythe, ça.
C'est un mythe. Deuxième élément, ce qui est vrai, c'est que la fluidité pour passer d'un poste à un autre, d'une filière à une autre, d'un statut à un autre, est beaucoup plus facile dans d'autres pays. Mmh. La Fondation a fait une étude il y a 2 ans qui démontrait que la transition professionnelle, l'accompagnement des transitions, la France et l'Italie étaient les pays
les
plus...
Et ça devient de plus en plus nécessaire d'accompagner ces transitions.
Évidemment, parce qu'en réalité, on regarde le chômage, selon nous, d'un mauvais angle. Vous avez le chômage de longue durée qui a été évoqué. Et remarquons quand même que pour la première fois, alors que c'est une loi, vous le savez, Rosine, qui depuis longtemps était dans les esprits, la loi chômage, zéro chômage de longue durée, loi Grand Guillaume, qui permet de transformer des indemnités en salaire pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, étant tentative, on essaye, on est en train sur des certain nombre de territoires de faire des expérimentations. Premier sujet, le chômage de longue durée. Deuxième sujet, pour la très grande majorité, je parle pas des jeunes là, parce que c'est un autre sujet. La grande majorité des autres personnes, c'est des transitions professionnelles. C'est donc, on passe d'un emploi à un autre, ou d'une activité à une autre. C'est-à-dire que ça fait partie de la mutation et de la vitesse qu'on évoquait tout à l'heure. La transformation de l'économie est telle que de toute façon, on est obligé de s'adapter. Or, il se trouve que l'appareil de production de la formation, comme beaucoup de sujets dans ce pays, il est verticalisé. Chaque secteur d'activité a sa formation. Chaque secteur a donc de l'argent. Or, le secteur qui décline a de l'argent beaucoup plus que le secteur qui apparaît. Or, si on ne mutualise pas l'ensemble de ces moyens pour être beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible en matière de formation professionnelle, pour adapter les formations, on n'y arrivera pas.
Bon, première solution, on l'a avec Patrick Lévy-Waits, c'est de réformer au fond notre système de formation professionnelle. Mais les jeunes sont là.
Oui, on parle des jeunes depuis le début de cette émission, on en a un. Il s'appelle Damien et il est commercial, donc apparemment... J'espère. Il travaille et il nous appelle du département de l'Aisne.
Bonjour Damien.
Bonjour Brigitte.
Roselyne. Non, Roselyne. On n'est pas tout à fait sur le même secteur, Brigitte et moi.
Bonjour Roselyne, bonjour Rémi.
Bonjour Damien.
Effectivement, oui, moi je travaille. J'ai mon CDI depuis que j'ai quitté l'école. Mais j'ai eu la chance, moi, de passer par l'alternance. Et pas forcément l'alternance dans un métier manuel comme on pense généralement, c'est-à-dire pour faire boulanger.
Vous avez raison. Maçon,
mais dans un métier administratif, c'est-à-dire que je faisais de l'alternance dans la banque et pendant mes études en IUT. Et pour moi, L'insertion des jeunes sur le marché du travail, ça passe de plus en plus par l'alternance, c'est-à-dire proposer des contrats d'alternance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un CDI en sortant de ça. Beaucoup de mes anciens camarades d'université qui ont eu un CDI également en sortant de l'alternance, parce que bah, justement, on est formés dans nos études. Il y a des avantages pour les sociétés de prendre des personnes en alternance. Ils ont des obligations aussi hein, légales, et ça permet aux jeunes de s'intégrer beaucoup plus facilement. Et après, pour un employeur, c'est beaucoup plus simple de prendre un CDI, un jeune qui vient de perdre 2, 3, 4 ans dans sa société, et l'insérer, puisqu'il aura, il aura été formé. Et pour lui, ce sera des coûts en moins de formation des jeunes. Donc pour moi, c'est vraiment mettre l'accent. Et d'ailleurs, tout à l'heure, votre invité disait que allait mettre en rapport l'école et le marché du travail pour pouvoir former aux emplois qui sont disponibles, parce qu'aujourd'hui, il y a pour lui en France. Et moi, je pense que c'est la solution. Il faut vraiment mettre l'accent dessus aujourd'hui.
Merci, Damien. C'est ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, Patrick.
Oui, Damien a parfaitement raison. Ce qu'il dit est frappé au coin du bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes le pays en Europe qui avons le plus de stages. Le plus de stages, 87%. Et qu'est-ce qui se passe dans les stages ? Comme c'est un stage, comme le dit son nom, eh bien, la personne ne va pas rester. Quand on est en formation en alternance, il y a un engagement de l'entreprise à former la personne. Donc, c'est une façon d'inscrire la personne dans le monde du travail au sens réel. C'est pas faire les photocopies et les cafés. C'est vraiment l'inscrire dans un poste.
Et dans la durée. Et dans la durée.
Et quand il s'agit d'enlever cette personne, chef d'entreprise, le dirigeant de PME, de TPE, il dit, est-ce que je peux pas vraiment essayer de le garder parce qu'il m'apporte quand même quelque chose d'utile pour le travail, pour mon activité. Et donc, la formation en alternance, l'alternance est évidemment clé. Nous sommes le pays en Europe, le plus de stages, le moins d'alternance.
Et puis alors, Damien dit quelque chose de très important, c'est que c'est pas seulement de la formation aux métiers artisanaux, manuels. On fait de l'alternance sur des métiers intellectuels, sur des métiers de très haut niveau.
On a fait peu dans notre pays, on en fait beaucoup plus ailleurs.
Voilà, c'est ça. Je dis qu'on peut le faire.
En fait, on a un sujet culturel, et là, pour le coup, c'est un sujet culturel dans ce pays, c'est qu'on pense, on a pensé très longtemps que les métiers intellectuels étaient mieux que les autres, en gros,
oui,
que
en
les
gros,
métiers
oui.
manuels... En gros, c'était vraiment une sous-formation. Donc, il y a un problème majeur de métier manuel. Et deuxième élément, on a toujours pensé que quand on avait fait des études, on savait alors qu'on entrait dans le marché du travail. Non, on a appris des choses, on va savoir les faire à condition de les mettre en application. Et donc, on avait une idée intellectuelle des métiers, on va dire, de l'université, en sortant de l'université. Et de l'autre, on avait une forme de dédain pour les métiers manuels. Résultat, on se retrouve avec des jeunes qui sont sans emploi parce qu'on ne les a pas préparés précisément à être en capacité
Patrick,
de faire.
Donc, deuxième piste, revalorisation des métiers manuels et développer de façon massive l'alternance, y compris pour des métiers dits, avec tous les guillemets du monde, intellectuels.
Nous avons Valérie qui nous appelle au 32-16 depuis la Charente-Maritime.
Alors Valérie, elle est l'autre côté de la barricade, si je comprends bien Valérie. Vous êtes... Voilà, alors dites-nous, vous êtes restaurateur Valérie.
Voilà, moi je suis restauratrice sur la côte atlantique, à Rochefort notamment. Mmh. Et nous avons un restaurant où nous sommes 10 à 11 personnes l'été et 7 l'hiver. Mmh. Et ça fait un an et demi à peu près qu'on cherche un cuisinier pour lui offrir un CDI. Eh bien, figurez-vous qu'on ne trouve pas, parce que ces jeunes gens font des CDD en premier, et dès qu'on propose un CDI, bah, tout le monde s'en va et reste au chaud l'hiver. Donc c'est vrai que quand j'entends votre discours, oui, effectivement, il y a des branches où le CDI, c'est bien, mais là, en l'occurrence, nous, bah, on n'obtient pas, et je ne suis pas la seule. Il y a 2 ans, au mois de juin, il manquait 7000 personnes dans la restauration.
Alors,
et ça n'était plus des CDD.
Alors, là, on entend ça, effectivement, Valérie, Patrick.
Oui.
On entend ça qu'il y a des jeunes, c'est peut-être pas la majorité, mais qui répugnent à s'engager dans un contrat à durée indéterminée, qui veulent alterner des périodes de travail avec des périodes, j'allais dire, de glandes.
Oui, vous pouvez le dire, de glandage. Il n'y a pas de souci.
Alors, Valérie, c'est vrai. Il se trouve que le secteur de la restauration, je le connais bien. Il y a deux problèmes dans la restauration. Un premier problème, vous venez de le dire, c'est qu'il manque aujourd'hui du personnel de restauration. Il y a un gisement d'emploi qui est considérable dans le pays. On ne trouve pas de cuisiniers, on ne trouve pas de serveurs. Il y a un deuxième sujet qui est plus compliqué à résoudre et qui est, je ne dis pas dire la glande, mais qui est l'effort que le métier de la restauration commande. Je vous rappelle que ce sont des métiers extrêmement durs. On parle de pénibilité. C'est des métiers très durs.
Et
c'est vrai.
Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de difficultés à avoir des jeunes qui acceptent de
les contraintes, travailler le soir, le dimanche.
Et ce serait une erreur que de ne pas entendre ça de cette génération qui, je rappelle, dans toutes les études, pas que cette génération d'ailleurs, les Français de façon générale, mais cette génération en particulier, veut à la fois de la liberté, ce que ces métiers rendent peu possible, et de la sécurité. Et donc, c'est le métier de la restauration, c'est vrai que le métier de la restauration, faut en être passionné, faut aimer ce métier, parce que sinon c'est une contrainte objectivement compliqué.
Et vous dites bien connaître le milieu de la restauration. Est-ce que là encore, on y revient, il n'y a pas un problème de formation au départ?
Mais la question de la formation...
Je pose la question, mais je ne connais pas. Mais est-ce qu'on explique bien aux jeunes?
Et on repassera à Patrick. Valérie,
je veux dire, là, j'ai un petit stagiaire qui est arrivé hier pour un stage, justement. Un stage d'école. Et on commence à lui poser des horaires, alors qui étaient relativement corrects, à mon avis. C'est-à-dire que le matin, il commence à 9h. Il finit à 14h30. Il commençait le soir à 18h avec une pause d'une demi-heure pour manger et il finissait à 22h30. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Ah ben non, le soir c'est pas possible parce qu'il lui faut 12 heures entre l'heure à laquelle il termine le soir et le matin où il commence. Alors c'est vrai que si vous formatez des jeunes avec des horaires de fonctionnaires, effectivement, quand nous on cherche après des employés, bah effectivement, on se retrouve avec rien.
Surtout, Valérie, le problème, il est pas, on formate pas des gens. Il y a des jeunes qui sont prêts à le faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas expliqué à ce jeune que faire ce métier, ça avait cette réalité. Et donc, il y a un problème, quand je disais tout à l'heure, culturel et de formation, c'est les deux. C'est, on n'emmène pas un jeune si on lui a pas donné les contraintes du métier et où il dit, OK, je comprends et j'accepte d'aller dans cette filière.
On va pas faire, évidemment, dîner les gens au restaurant à 18h.
Ça, quoi que, si on sert
dans une maison de retraite, le potage et la soupe, le potage et la compote. Mais oui, évidemment.
Potage et la soupe, oui. Donc, les questions d'orientation, parce qu'on a évoqué la formation.
Donc, quatrième piste. Orientation, orienter les jeunes vers les métiers.
J'ai l'impression qu'on y revient toujours. Orientation, formation.
Puisque la question se dit, pourquoi il faut se poser la question? Tous ces points, on les a depuis des années. Ça fait 25 ans qu'on en parle. La raison pour laquelle on ne le change pas, c'est parce que nous essayons de faire des réformes à l'aune des mandats électifs. En Suède, au Danemark, en Finlande, quand ils ont fait des réformes en profondeur, pas en Allemagne, mais dans ces pays du Nord qui sont plus proches de nous en termes culturels.
Ouais, mais c'est pas
Non. Ils l'ont fait. Attendez, ils l'ont fait sur 3 mandats. Gauche, droite, ont continué les réformes de fond.
Mais c'est pas possible en France, Patrick. Arrêtez de rêver. Vous voyez ce qui se passe. Rien qu'au Parti Socialiste, ils se cognent sur la gueule. Alors vous pensez qu'entre la droite et la gauche, on va s'entendre. Arrêtez.
Attendez, on parlait tout à l'heure de la sécurisation des parcours professionnels. Puisqu'on parlait de cette question. Cette question, elle est traitée par tous les gouvernements de façon continue. Étape par étape, morceau par morceau, en prétendant que
on
ceux d'avant ont mal fait.
On va installer le pôle Nord aux Seychelles, alors. Et qui est-ce qu'on a au 32-16?
On a Arnaud qui nous appelle au 32-16, il n'est pas dans le pôle Nord, ni aux Seychelles, mais dans le Val-de-Marne. C'est
alors,
pas mal non plus.
Arnaud, bonjour.
Bonjour à tous, merci en tout cas. Oui, effectivement, ça fait un petit moment que je vous écoute, et effectivement, je rejoins un petit peu les anciens... L'ancien appel, je trouve qu'il y a un réel problème de fond, déjà, ne serait-ce que dans l'éducation nationale. On travaille encore à l'école comme il y a 70 ans, où c'est très industrialisé, où tous les élèves, de toute façon, sont assis en classe et qui lèvent la main quand on les autorise, et on y perd complètement toute la créativité aujourd'hui qu'on doit développer chez les jeunes dans l'institution moderne. Et je pense que ça coûte cher, effectivement, à des jeunes de 20 ans qui arrivent sur le marché du travail. Moi, je me rends compte aujourd'hui, j'ai 27 ans, et je vais être franc avec vous, j'ai jamais galéré pour quoi que ce soit à trouver du boulot, tout simplement parce qu'on m'a toujours appris qu'il fallait se baisser pour le ramasser. Du travail et de l'emploi, il y en a. Il y en a plus que massivement, je pense. Maintenant, c'est vrai qu'on a instauré une politique ou une méthode ou un savoir-penser où on dit aux gens, allez pas bosser de toute façon, en début de contrat, on vous filera autant à rien faire.
Alors Arnaud pointe une autre chose, c'est une certaine désaffection pour le travail, une société du non-travail présentée comme une sorte d'idéal, et ça c'est peut-être aussi à des constats qu'on fait dans la pré-campagne présidentielle actuelle. Merci Arnaud de nous l'avoir dit.
Et puis très court, mais c'est vrai qu'on a parlé des salariés, vous vouliez également parler des indépendants.
Bien entendu, les jeunes et et de façon générale, il y a une attente de plus en plus grande à être libre et donc à être indépendant. C'est une aspiration de plus en plus grande. On a parlé de ceux qui voulaient pas travailler. Il y en a, mais il y en a beaucoup qui veulent travailler autrement. Et donc, la sécurisation des parcours et donc l'embryon de compte personnel d'activité créé devra être la réforme en profondeur que fera n'importe quel gouvernement demain. Autrement dit, permettre à chacun, tout au long de sa vie, d'avoir des droits et de les utiliser au moment difficile de sa vie. C'est tout simple. Quand j'ai une difficulté, je dois pouvoir utiliser des droits que j'ai acquis quand ça allait mieux. Si on n'est pas capable de le faire dans le futur, on aura, alors pour le coup, une vraie révolution des gens contre ce système.
Merci, donc Patrick. Ça,
une des solutions, on a parlé aussi beaucoup de la formation, du développement. On est le pays où il y a beaucoup moins d'alternance par rapport à d'autres pays. On fait du stage, d'accord, mais on ne fait pas assez d'alternance. Voilà, ça, ce sont des pistes qu'on va évoquer,
et
qu'on
oui,
a évoqué,
absolument.
Et qu'on évoquera encore, je pense, dans les semaines qui viennent.
Je pense qu'on en reparlera.
Exactement, tout de suite, Roselyne, le top news, les sujets qui te font réagir dans l'actualité, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.
On indemnise, mais finalement, on prend pas le décret pour la fermer, vraiment.
Hollande ne votera pas à la primaire de la gauche.
Bah, il devrait le dire solennellement, au lieu de pratiquer le double jeu.
Et puis, des étiquettes plus grandes sur les bouteilles de vin pour avertir les femmes.
Je suis pour.
Allez, pour, vous avez compris, vous nous appelez au 3216. Pour l'engueuler.
RMC 100% Bachelot. Retrouvez Roselyne Bachelot sur Facebook et Twitter.
Qu'on nous dit sur rmc.fr,
bien, toujours plein de messages. Roselyne, Rémy, vous savez, hein, tous les jours, je fais une petite revue de presse de tous les messages qu'on reçoit sur nos réseaux sociaux. Et on a Karim qui nous dit, si on fait disparaître le CDI, qui fait partie de notre modèle de société, il est indispensable aussi de faire évoluer les mentalités des décideurs économiques, comme les banquiers, crédit d'emprunt, les propriétaires pour l'accession à la location ou à la propriété, les assureurs qui font payer plus cher les indépendants, etc. Et on a Sarah qui, elle, est d'accord avec Karim. Elle nous dit suppression du CDI égale moins d'emprunt, égale moins de logements, égale licenciement dans tous les coins du moment que les entreprises pourront se faire plus de profits immédiats. Si on veut réformer le droit du travail, réformons d'abord l'accès au logement et à l'emprunt bancaire.
Eh oui, Patrick, on était d'accord.
On se l'est dit tout à l'heure avec Patrick et les Vivettes. Effectivement, il y a un problème culturel. Il va falloir sécuriser tout ça et faire comprendre que le CDI, c'est plus le Graal, mais mettre en place d'autres choses pour sécuriser l'emploi.
Un mot, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que j'ai jamais vu un contrat de travail qui crée de l'emploi. J'ai vu des entreprises et j'ai vu de l'économie. Or, on ne parle dans cette campagne, Roselyne, que du contrat de travail, que du revenu universel, et on ne va parler, vous allez voir, que des sujets socio-économiques, mais pas parlant de comment on remet de l'activité sur les territoires. Oui. Comment on en remet? Or, c'est bien le cœur. Si on a de l'activité, il y aura du travail. Et donc, je suis assez fasciné par cette idée sur laquelle, aujourd'hui, on pense que c'est parce que le contrat de travail sera un peu plus souple qu'on va créer de l'activité. On va assouplir, on va fluidifier, mais on ne créera pas d'activité.
Et on termine par ce message de Claudia qui nous dit qu'elle a suivi une formation d'ingénieur et qu'elle a été engagée directement suite à son stage en CDI. Donc elle nous dit quand même que le CDI, c'est encore possible pour les emplois qualifiés. Donc un gros message d'espoir de Claudia.
Merci Manon.
Et tout de suite, on se retrouve pour le Top News.
Exactement, et vous pouvez encore réagir si vous voulez au 32-16.
Exactement.
RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, Top News, 100% Bachelot. Roselyne Bachelot.
Il est 15h49 sur RMC, c'est l'heure de notre Top News dans 100% Bachelot. Ferme-t-on vraiment Fessenheim ou est-ce que c'est un faux semblant?
Oui.
Alors Hollande, a-t-il raison de ne pas voter à la primaire? Je trouve qu'il a raison. Et le logo femme enceinte plus grand sur les bouteilles de vin? Oui, moi je suis pour, mais j'ai l'impression qu'on va pas être d'accord avec moi et que c'est Rémi. C'est Rémi qui s'y colle parce qu'il est viticulteur.
Il nous appelle de l'Hérault.
Et il nous appelle de l'Hérault. Bonjour Rémi.
Bonjour Roselyne, bonjour toute l'équipe. Et vous avez raison, je ne suis pas d'accord avec vous.
Ah ben voilà, mais c'est ça le charme de 100% Bachelot. C'est de se faire engueuler. Alors dites-moi tout Rémi, ce que vous avez sur le cœur ou sur la bouteille.
Mais il faut savoir que ça existe depuis 2006 et ça n'a quand même pas fait forcément ses preuves. Il y a 3% des femmes qui sont alcooliques. Il faut le savoir aussi. Et c'est 1% des enfants qui naissent comme ça. Donc ça touche pas non plus. Alors, c'est sûr qu'on pourrait mettre aussi des obèses ou des photos de cancer sur les pots de Nutella, par exemple.
Pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, mais aussi, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes risques.
Voilà, mais après, bon, c'est aussi de l'esthétique dans les grands domaines, quand on exporte, ou même en France, quand même, un grand logo comme ça, ou si on dénature une étiquette, est-ce que vous allez acheter une bouteille qui ressemble à une bouteille de lessive, vous allez vouloir en boire, vous, du
vin, c'est, il est quand même pas énorme, le logo, Rémi, hein.
Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure, on rajoute. Donc, je ne sais pas si c'est forcément efficace. Quelqu'un qui a envie de boire, il boira qu'il y a un logo ou pas. Voilà, il faut le savoir. Et puis, il y a une étude anglaise, quand même, qui est véridique et qui n'est pas démentie. C'est que boire 1 à 2 verres par semaine de vin, donc ça représente une demi-cuillerée à café par jour, hein, ça améliore les facultés cognitives et le comportement social des enfants.
Non mais attendez, Rémi, je suis pas anti-vin du tout. Je dis simplement que quand on est enceinte, quand on attend un bébé, c'est zéro alcool, c'est tout. On fait pas une campagne anti-patrimoine national, Rémi, hein, on est bien d'accord.
On est bien d'accord, mais quand même, au fur et à mesure, pourquoi les gynécologues ne font pas alors ce travail d'accompagner les personnes et de prévention?
Ah aussi. Non, mais vous avez raison, que là c'est aussi, mais l'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre, mais il y a déjà le logo. C'est toujours mieux que quand il n'y était pas. Donc pourquoi toujours agrandir et mettre encore plus gros les choses et les choses? On marque tout ce qu'il y a. Battons-nous sur la provenance des produits quand c'est dans les rayons français et que ça ne vient pas de France. Là, on ne vous entend pas.
Rémi, quitte à se méfier, à ne pas agrandir ce logo, est-ce que vous voudriez qu'on le supprime de totalement?
Mais écoutez, il y est. On joue le jeu aussi, ça ne nous dérange pas qu'ils soient un petit, il faut pas non plus, on n'est pas contre tout. Maintenant, de l'agrandir encore, est-ce que je ne pense pas que ça va améliorer les choses? Si une dame voit le logo plus gros, va se dire non, je la repose. Ouais. Elle le voit, le logo.
Bon, Rémi, on n'est pas d'accord, mais c'est formidable de pas être d'accord et de discuter. On a un autre viticulteur, je suis sûr.
Alors, tu les as fait sortir de leur cave.
Je les ai fait sortir de leur vigne. Bonjour, okay. Pierre.
Bonjour.
Alors, dites-moi ce que vous avez sur le cœur, Pierre.
Ah ben écoutez, moi je suis comme jeune viticulteur dans l'appellation Saint-Émilion.
Ouh là là, c'est bien ça.
Oui. Bon, ça veut rien dire. Hein. et voilà, donc j'ai 21 ans, je commence juste.
On vous entend très mal, Pierre. Ah si oui, vous là, bouger un petit peu.
Bougez un petit peu, allez près de la fenêtre.
Est-ce que vous m'entendez mieux là?
Non, à peine. On a l'impression que vous êtes dans un tonneau, en fait.
Ou dans un foudre.
Non, pas du tout. Est-ce que c'est mieux là aussi?
Ouais, c'est mieux, allez-y, Pierre.
Voilà, non, bon, alors je me dépêche. Non, voilà, je voulais juste simplement dire que c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est totalement absurde pour moi, parce qu'il y a déjà une étiquette qui est donc de cette bouteille, qui est visible, qui est obligatoire. Et je pense que c'est quelque chose qui, en agrandissant cette pastille, ne changera absolument rien. Et puis également, Rosine, je vous avais entendu parler en disant que l'abus d'alcool donc était très dangereux, notamment pour les femmes enceintes. Mais je pense que le vin n'est pas une boisson. Enfin, elles ne boivent pas que ça. Il n'y a pas que cette. Enfin, voilà, il n'y a pas que le vin qui crée une incidence sur les femmes enceintes.
Voilà, bon, bah, Pierre, d'accord, on vous a entendu, et puis vous faites du très bon vin, et consommer avec modération, c'est excellent, sauf quand on est enceinte. Alors,
il y a Vincent qui...
Vincent n'a pas voix à la parole.
À part le Gaillac est conseiller pour les femmes enceintes.
Arrête, je t'en supplie,
c'est conseiller.
Ne dis pas des conneries ici, sur RMC.
Avec modération, on répète que l'alcool est dangereux pour les femmes enceintes, et attention, l'alcool, c'est dangereux également au volant.
En tout cas, il y a un autre moment où il faut pas boire, c'est au moment où on conduit une voiture, et je le dis tout de suite, parce que je vous rappelle que RMC vous offre 10 Citroën C1 suite à nos records d'audience, et que nous avons caché partout en France, c'est à vous de les retrouver. Nous avons donc 2 gagnants éventuels avec nous.
Peut-être.
Et j'accueille Gaël. Bonjour Gaël.
Bonjour Rosine, bonjour tout le monde.
Alors, vous pensez que c'est dans quel département que se cache la voiture?
Dans le département du Gard.
Alors, du Gard.
On a une enveloppe avec écrit Gard.
Oui, je sors le département du Gard. Oh, je fais clic au micro. Oh là là. Vous avez entendu la rupture du cachet.
Oh, c'est net.
Ah, vous n'avez pas gagné la voiture, Gaël, mais vous pouvez continuer à tenter votre chance.
C'est pas grave.
Vous pouvez retenter votre chance en envoyant RMC par SMS au 732-16.
Au 732-16. Et nous avons Kevin. Kevin, qui est du Doubs, hein, Rémi.
Exactement. Bonjour, Kevin.
Alors, vous choisissez quel département?
Bonjour, Nadine. Bonjour, RMC.
Bonjour.
Alors, moi, j'ai choisi le Doubs, 25.
Bah ouais, évidemment. Bah oui. Merci.
Alors,
je fais scrunch
ouais,
au micro.
Alors?
Kevin,
dommage. Dommage.
On le fait gagner que dans les grandes émissions.
Mais c'est pas juste, Eric Brunet, il a déjà fait gagner deux voitures.
Moi aussi, Rosine. Deux mois.
Attends.
Il faut que t'ailles
râler. Qu'est-ce qu'il faut de la direction de RMC,
Je sais pas, j'ai gagné une tricoteuse.
Il y a un complot, Kevin.
Il y a des préférés, il y a des préférences.
Je vous embrasse. Et vous pouvez jouer au 732-16, évidemment, bon, par SMS.
On va quand même écouter Vincent Moscato, quand même.
Ouais, bien entendu.
Rosine, tu sais que tu es d'une beauté avec cette petite veste là.
Ah ouais, ça te plaît.
Ah, tu portes bien la toilette. Mais c'est vrai que t'as toujours ce charme, ce goût. Ah, ça, c'est la vraie toilette. Bravo, Rosine.
Merci, Vincent.
C'est un peu tempête du désert. Division d'Aguet, c'est du kaki, c'est pour aller à la chasse. Mais c'est très joli. Oh,
du chasse avec de la broderie.
Oui, mais la chasse, une chasse à court, bien entendu. Non. Alors, Tsonga et mon fils, ils veulent pas faire la coupe des vis parce que Tsonga, sa femme est enceinte. Alors voilà, il dira pas. Alors ça, on n'a jamais dit ça.
Bon, qu'est-ce que je te dis?
Il joue plus que gros parce que là il a Bordeaux, Coupe de la Ligue. Il faut pas qu'il perde Monaco en suivant. Il faut pas qu'il se ramasse parce qu'il est éliminé de la Coupe de la Ligue en suivant. Ah. Et après il y a la Champions League. Alors attention, Emery.
Hartung
Minen, comme on dit.
Et nous on se retrouve
demain dès 15h, 100% Bachelot.